Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, c'est une petite île grecque de Léros qui sera au cœur de notre discussion pour situer l'île de Léros. Elle se situe dans l'archipel des Dodécanèses, dans la mer Égée. Situation privilégiée pour les migrants qui traversent vers l'Europe, Aude.
Oui, Fabien, et nous aurons le plaisir d'accueillir Laure Gabu, l'une de nos chroniqueuses, mais ce soir en tant qu'invitée, puisqu'elle s'est rendue l'automne dernier à Léros. Avec le photographe Pierre-Emmanuel Fer, ils sont allés à la rencontre des milliers de migrants qui transitent par cette île pour se rendre en Europe. De leur expérience est né un livre qui vient de sortir en librairie et dans lequel ils nous livrent leur vision de cette situation sur fond de crise migratoire.
Bonsoir Laure Gabu.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Radio Django. La plupart des auditeurs, on n'apprend rien à personne, ont sûrement déjà entendu le nom de Lesbos, un nom qui circule beaucoup, mais nettement moins entendu parler de sa petite sœur voisine aussi, Léros. Alors, d'où est venue cette idée de te rendre particulièrement sur cette île ?
Alors, l'idée est partie, en fait, d'une rencontre aussi avec Pierre-Emmanuel Fer, qui est le photographe. Et moi, ça faisait quelques années maintenant, enfin même beaucoup d'années que je travaille sur la migration. Donc, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Comme journaliste, je travaille pour un quotidien. Et du coup, l'idée, c'était aussi de prendre plus de temps, d'aller m'immerger un peu dans une réalité. Et puis, en discutant avec Pierre-Emmanuel, on est assez vite tombé d'accord sur la Grèce. Puis sur Léros qui, en fait, par sa photogénie, nous a d'abord attirés, plus que par les informations qu'on peut y trouver, parce que peu d'informations étaient disponibles en ligne. Et puis, on s'est dit que, vu sa situation, à 35 km, je crois que c'est des côtes turques, elle devait, de par cette toute petite superficie, représenter comme une sorte de microbiotope migratoire. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller discuter aussi avec les Grecs, qu'on avait assez peu vus, malgré la crise économique aussi qui était toujours là, et puis de voir un peu comment les forces en présence s'organisaient autour de l'arrivée des migrants. Voilà.
Donc de cette expérience est né un livre, on l'a dit, qui s'intitule, je le répète, « Léros, île au cœur de la crise migratoire ». Et toi, comme tu viens de le dire, tu es journaliste. Alors bon, d'habitude, tu as plutôt l'habitude d'écrire des articles qui sont plus restreints. Qu'est-ce qui a changé dans ta démarche pour réaliser ce livre ?
Alors, le fait de s'immerger, c'est une expérience pour un journaliste qui est assez chouette. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui change, c'est qu'au bout d'un moment, on voit et on revoit et on re-revoit les mêmes scènes. Le journaliste, d'habitude, il va d'un coup sur un événement. C'est un peu du one-shot, de la rapidité. Et là, c'était vraiment chouette d'avoir le temps, de prendre le temps, de rencontrer les gens, de confronter les informations lentement. Parce que sur un aussi petit territoire, en fait, il y a énormément de rumeurs. Donc ça valait le coup aussi de revenir, de reposer la question. Et puis, finalement, on s'attache, quoi. On crée aussi des liens qui sont plus forts que si on reste quelques heures et on s'en va.
Et dans ta façon d'écrire, finalement, dans ton style, est-ce que là, il y a eu une différence ?
Alors, c'était la question que je me suis posée. Donc, je suis revenue, j'ai un peu trituré toute cette matière que j'avais. Et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu confrontée à un problème. C'était, où est-ce que je me mets, moi, vu que, de par le temps que je passais là, j'avais un peu mes émotions qui étaient impliquées, ma personne qui était impliquée. J'avais des réactions, des colères, des peurs. Enfin, je vivais un peu le truc avec les autres, et du coup, je me suis dit, consciemment, j'ai glissé en fait du rôle de journaliste à celui de narratrice. Et c'est pour ça que le récit est articulé en jeu, parce que pour moi, à un moment donné, c'était important que je sois là, pas comme personnage principal, l'île reste le personnage principal, mais comme un des personnages qui afflue sur cette île en même temps que tous les autres.
Et donc le livre, en fait, il est fait en deux parties, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. La première avec ton texte et la deuxième avec les photos de Pierre-Emmanuel sans légende. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de séparation, en fait, bien net, et puis pas avoir utilisé les photos comme illustration du texte, par exemple ?
Alors c'est parti d'un choix au départ. Quand on a discuté, c'était très important pour lui de ne pas être le photographe qui illustre l'article. Et pour moi, c'était très important de ne pas être la journaliste qui fait la préface d'un ouvrage de photos. Et donc, de cette volonté, quand on a ramené tout le matériel, On a beaucoup discuté, en fait, c'est une question qui a été beaucoup discutée, et on s'est dit que c'était intéressant de raconter deux récits. Et en fait, je trouve pas mal, au final, c'est très étrange, mais ça marche bien, parce qu'on a mon texte, donc on a une histoire, et quand on la termine, on arrive sur les photos de Pierre-Emmanuel, et on rentre dans une autre histoire, au même endroit.
Les photos qui ont été prises par Pierre-Emmanuel, c'est des photos qui ont été prises aux endroits que vous avez visités ?
Alors oui, toutes les photos ont été prises sur les roses.
Oui, oui, non, ce que je veux dire, bien sûr, c'est est-ce que des photos qui illustrent les endroits que tu as vus, que tu as imaginés pour écrire le texte.
Alors, parfois il me suivait, parfois il faisait les choses de son côté. Donc il s'est beaucoup pris d'intérêt pour le camp. Moi, un peu moins, parce qu'au bout d'un moment, j'avais vite fait le tour des enjeux. Et puis, lui, il était très intéressé par les paysages, alors que moi, j'avais très envie d'aller voir les Grecs et de comprendre un peu aussi le fonctionnement de l'île, aussi au niveau politique, etc. Donc, en fait, les deux se complètent assez bien, finalement.
Et donc, ces photos sont en fait toujours en noir et blanc. La couverture aussi est en noir et blanc. Donc, du coup, on a un résultat qui est très noir-blanc. Ça aussi, c'était une volonté de votre part d'avoir complètement exclu la couleur.
Alors moi, je pense que mon récit est coloré, alors elle revient à ce niveau-là. C'était aussi pour les graphistes très important de conserver une ligne graphique qui soit homogène. Et de par le fait que Pierre-Emmanuel travaille en noir et blanc...
Il travaille toujours en noir et blanc.
C'est ce qu'il a exprimé l'autre soir, en fait. Je l'ai appris l'autre soir quand on a fait le vernissage.
Parce qu'il faut le préciser, effectivement, il y a eu un vernissage du livre qui s'est passé la semaine dernière. Élément plutôt fort pour un livre. Hein.
Oui, c'était une très très belle table ronde où il y a eu beaucoup de débats et ça a suscité beaucoup d'énergie positive. C'était très beau comme moment.
Et puis pendant ton voyage, alors j'imagine que tu as rencontré des gens, forcément tu as dû nouer des liens. Est-ce qu'il y a une rencontre aujourd'hui qui peut dire qui t'a particulièrement marqué ?
Bon, elles m'ont toutes marquée, hein, et c'est pour ça que j'ai fait un livre. Après, je sais pas. Est-ce que si je devais en choisir une, j'ai eu un très très bon contact avec la professeure de français de Lille, qui était une dame qui avait fait un choix. En fait, elle venait de Thessalonique, elle a choisi de s'installer sur la plus petite île de son pays pour y enseigner le français. C'était quelqu'un d'hyper volontaire, extrêmement touchant, et qui, elle, avait un discours sur les choses qui était vraiment magnifique, et qui, le dimanche, allait avec ses élèves au camp de réfugiés, distribuer de la nourriture, et qui travaillait au quotidien avec ses élèves pour les questionner sur ce qui se passait sur leur île et leur poser des questions. C'était vraiment une rencontre très belle, aussi une amitié assez belle. Après, dans les bénévoles aussi, on a eu de très bons contacts, et puis certains migrants, ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, Laure Gabu, tu es encore en contact avec certaines de ces personnes que tu as rencontrées ?
Alors le plus, je suis en contact avec les migrants que j'ai rencontrés.
Ils sont toujours là-bas ?
Ah, puis avec des bénévoles aussi, non, ouais. En fait avec tout le monde.
Tout le monde, bon.
J'ai un peu de peine à communiquer avec la prof de français, ouais. Si elle nous entend, parce qu'en fait elle répond très peu à ses emails, et puis moi je suis mauvaise aussi, mais voilà.
Alors ça c'est vrai que c'est une question qui a l'air un peu bête ici en Europe de l'Ouest, on a partout internet, voir le téléphone. Comment est-ce qu'on communique avec eux qui sont loin, ils sont dans une zone un petit peu délicate actuellement ?
Alors, ceux avec qui je suis en contact, c'est ceux qui sont dans le livre. Donc, il y en a qui sont... Un qui est syrien, qui est en Allemagne. Donc là, il m'a dit qu'il avait son propre appartement, qu'il voulait commencer la médecine, donc c'est chouette. Il a une petite amoureuse. Mais c'est sur WhatsApp et c'est sur Facebook. Ouais. Et puis, un autre qui est... qui, en fait, lui... Moi, j'ai pas envie... Enfin, j'ai laissé ça exprès ouvert, en fait, dans le livre. Mais lui, en fait, s'est fait passer pour syrien, était en réalité libanais. Ce qui me confie à un moment donné du récit. Et moi, je voulais absolument avoir la suite de son histoire. Et du coup, je l'ai suivi énormément en lui faisant des interviews WhatsApp, en lui disant bien que j'étais mariée aussi, au cas où, et pour ne pas semer la confusion, et lui dire que je lui posais des questions pour le livre, pour... Et en fait, c'est un matériel que j'ai réuni et dont je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'aimerais bien en faire quelque chose.
Tout ça ne figure pas donc encore dans ce livre-là, ouais.
Puis donc les réseaux sociaux, on le voit, sont importants dans leur parcours, dans leur voyage.
Ouais, ouais.
Ils l'utilisent comme un outil, en fait.
Mais comme nous, en fait. C'est là où il y a très peu de différence. Eux voyagent comme nous, on voyage. Enfin, ils le font juste différemment. Donc à chaque étape, ils prennent des selfies, ils l'envoient à leur famille, ils se connectent dès qu'ils peuvent. Il y a très peu de différence. Mais oui, les téléphones sont très, très, très importants.
Et pendant ton séjour, tu as aussi pu observer de près la manière dont les migrants sont accueillis sur cette île de Léros et puis comment ils sont, entre guillemets, enregistrés par les autorités locales. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la manière dont ça se passe et puis ce que tu en as pensé, finalement ?
Les guillemets sont très justes. En fait, c'était vraiment fascinant parce que, évidemment, que j'ai pas pu tout voir, mais c'est vrai que ça se passait sur un tout petit port, sur des vieilles tables en bois, comme tu peux trouver dans ta cuisine, qu'ils avaient un peu balancé là, avec effectivement très peu de personnel. Ils avaient encore les rouleaux à encre pour les empreintes digitales, je sais pas, d'une époque qui, moi, me semblait totalement révolue. Il y a un truc très fort que Pierre Menel a bien mis en photo, mais il leur faisait des croix après sur la main pour les enregistrer. Comme... Enfin, moi, ça me rappelait vraiment des époques très sombres. Et là, en fait, à des moments, j'ai vu des gens, dont des bénévoles, prendre les inscriptions des gens. Et il y avait une sorte de... Ouais, il y avait... En fait, d'un côté, ça prenait des heures, les enregistrements, et de l'autre côté, c'était... fait de manière extrêmement légère. Puis après, il y a eu les attentats, et là, ça a commencé. Ils ont voulu rendre ça de plus en plus sérieux et de plus en plus sécurisé, mais avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un tout petit peu paniquant. Il y avait une surenchère aussi à la nationalité syrienne. Tout le monde disait qu'il était syrien. Ça crée des situations dont je ne parle pas forcément dans le livre parce que je n'ai pas forcément pu les prouver. Mmh. Et je ne voulais pas mettre des fausses accusations, mais c'est clair que ça crée des situations de corruption et de confusion massive, quoi, et qui font un peu peur et qui montrent aussi un peu l'absurdité aussi parfois de ce besoin d'enregistrement, ce besoin sécuritaire.
Et puis finalement, les locaux qui eux étaient sur place avant tout ça et puis qui maintenant se retrouvent avec cette situation de forte affluence, comment est-ce qu'ils le vivent ?
En fait, ils ont déplacé le camp de réfugiés, ils l'ont fermé. Ils ont créé un hotspot maintenant qui est vraiment, pour le coup, en dehors, qui est sur une ancienne base aéronautique, qui est sur le site des hôpitaux psychiatriques. Donc, plus loin de la population, c'est difficile de faire. Donc, il faut traverser tous les hôpitaux psychiatriques pour ensuite arriver au hotspot. Donc, autant dire que maintenant, la population et les touristes ne vont plus y aller. Et l'entrée, c'est un portail, donc voilà. Et donc, s'ils n'ont pas envie de le voir, la population, ils ne le voient pas. C'est que ceux qui sont volontaires qui peuvent s'engager.
Des volontaires dont tu faisais partie ? Ou des volontaires plus bénévoles
Moi, c'était difficile de trouver mon rôle, c'est ça la question.
Oui, hein. Oui.
Entre les volontaires, quel rôle on a comme journaliste quand tout le monde aide et que nous, en fait, on documente ?
Et puis, une trame de réponse ?
J'ai pensé... que mes interviews et que donner la parole aux gens les aidait. Et une fois que je le faisais, ils ne me demandaient pas grand-chose d'autre, en fait. Et puis, du coup, ça a permis d'éviter la confusion. C'est aussi pour ça que j'étais assez peu au camp, finalement. Je rencontrais les gens en dehors. Parce qu'une fois qu'on est au camp, si on n'aide pas... Enfin, pour moi, c'était déplacé, quoi. Alors, c'est plus facile avec un appareil photo, mais avec un calepin. Mais oui, il y a des fois où je me suis retrouvée à devoir aider, parce que... inévitablement, il fallait faire quelque chose dans l'urgence.
Alors, on parle logiquement de dons, de bénévolat, de solidarité. Logiquement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de démonstrations de solidarité qui t'ont marqué ?
Énormément, ouais. Énormément. Et à chaque minute, en fait, donc il y en a presque trop, mais les bateaux, on en parlait tout à l'heure des enregistrements, les gens arrivent sur une autre petite île militaire, en fait, à côté. Et donc, c'est des bateaux qui vont les escorter et qui arrivent la nuit. Uniquement la nuit. Et les bénévoles se levaient toutes les nuits à 4h, à 5h, à 1h du matin. Ils s'envoyaient des messages et communiquaient parmi pour aller accueillir les gens, qu'il pleuve ou qu'il vente, parce qu'il neige pas. Et ils étaient tout le temps là. Et c'était vraiment extrêmement beau à voir, ça. Et après, simplement dans l'humanité des gens et la bienveillance, c'est vrai qu'il y a eu des témoignages... très beau, juste de sourire et d'échange, qui sont difficiles à expliquer, mais d'amour un peu universel comme ça, qui était très, très, très poignant.
Avec le recul, est-ce que tu penses maintenant qu'on pourrait faire les choses différemment en Suisse, dans notre manière d'accueillir ces gens, dont ceux qui sont passés par l'Eros ?
Avec le recul, j'avais déjà une opinion avant. Je n'ai pas écrit ce livre pour devenir spécialiste et dire aux politiciens ce qu'ils doivent faire. Enfin, Justement, il y a très peu de politique dans le livre et pour moi, c'est important de garder mon rôle aussi ici aussi. Mais c'est vrai qu'on en a parlé le soir du vernissage. Je trouvais bien que les gouvernements, les politiciens acceptent aussi l'aide. Dans le besoin sécuritaire qu'ils ont aujourd'hui de contrôler les arrivées, de contrôler leur population, avec les craintes de terrorisme, etc., ils ont une tendance qui, moi, me fait très peur à fermer les espaces où on loge les gens, à fermer les espaces où on les rencontre. Et en fait, ce qui fait que la population qui, spontanément, aimerait aider ne peut plus y accéder, et ce qui crée, pire que des ghettos, quasiment des lieux de détention où les gens ont peur d'aller. Et ils ont peur, ça fait comme s'ils étaient criminels, en fait, qu'ils avaient fait quelque chose, parce que cette isolation, elle est suspecte. Donc s'il y avait peut-être une chose que j'ai retenue, c'est que en fait, la solidarité existe. Spontanément, les gens sont là, ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Si c'est que 20% de la population, c'est déjà ça de prix, et qu'il faut qu'elle puisse s'exprimer, parce que si on... s'exprimer dans des endroits positifs, c'est-à-dire des endroits où, oui, on peut faire un potager urbain, oui, enfin, on peut être à l'extérieur, et pas uniquement aller servir des repas à l'intérieur d'un abri PC. C'est pas ça, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire. Et il y a des initiatives très belles en Suisse, mais je trouve qu'elles devraient être davantage encouragées.
Et à l'avenir, est-ce que tu as prévu de retourner à l'Eros un jour, peut-être pour un tome 2, qui sait?
Alors, retourner à l'Eros en tout cas, car c'est une magnifique île. Vraiment, ça c'est vraiment un truc qui m'a aussi frappée. J'aimerais bien continuer à travailler sur ces questions-là. On dit qu'une fois qu'une expérience s'est bien passée, il faut peut-être éviter de vouloir la renouveler à tout prix. Je suis assez partisane de ça. Quand on a fait une belle expérience, des fois, il faut la laisser où elle est. Je pense que d'autres journalistes pourraient prendre le relais et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Le tome 2, ouais, là, il y a beaucoup de gens qui me demandent la suite. J'avais pas pensé à cette question. Du coup, j'y ai réfléchi et à suivre.
À suivre, peut-être aussi avec tous les éléments qui n'ont pas été mis dans ce premier livre. Mm-hmm. Voilà, donc information à suivre. Merci beaucoup, Laure Gabu, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté ton livre. On rappelle le titre, L'Eros, île au cœur de la crise migratoire, un livre que tu as écrit avec la collaboration de Pierre-Emmanuel Fer, qui lui a illustré donc ce livre avec la deuxième partie, comme on l'a dit tout à l'heure. Un livre qui est disponible dès maintenant en librairie et vous pouvez également le commander sur le site de Georg, votre éditeur, www.georg.ch. On vous a mis tous les liens et sur notre site et vous retrouverez également l'intégralité de ce podcast avec cette interview sur notre site www.django.fm. Et merci beaucoup à Aude pour la préparation de ce sujet.
Avec plaisir.